à présent que d'une main tremblante, je ne sais si c'est pour l'horreur du péché dont je parle ou pour la coupable nostalgie du fait que je remémore, j'écris ces lignes, je m'aperçois que j'ai utilisé les mêmes mots pour décrire mon extase abjecte de cet instant-là que pour décrire quelques pages plus haut le feu qui brûlait le corps martyr du fratricel Michel. Et ce n'est pas un hasard si ma main exécutrice soumise de l'âme a couché par écrit les mêmes expressions pour deux expériences aussi dissemblables. Car il est probable que je l'ai vécu de la même façon alors, et il y a un instant quand je cherchais à les faire revivre toutes les deux sur le parchemin. Il est une mystérieuse sagesse, en raison de quoi des phénomènes entre disparates peuvent être nommés avec des mots analogues. La même sagesse, en raison de quoi les choses divines peuvent être désignées avec des noms terrestres et par des symboles équivoques. Dieu peut être dit lion ou léopard, et la mort blessure, et la joie flamme, et la flamme mort, et la mort abîme, et l'abîme perdition, et la perdition défaillance, et la défaillance passion. Pourquoi, moi, jeune homme, nommais-je l'extase de mort qui m'avait frappé dans le martyr Michel avec les mots dont s'était servie la sainte pour nommer l'extase de vie divine? Mais avec les mêmes mots ne pouvais-je nommer l'extase coupable et passagère de jouissance terrestre, qui de son côté m'avait semblé sitôt après sensation de mort et anéantissement? Je cherche à présent à raisonner sur la manière dont je ressentis, à quelques mois de distance, deux expériences, l'une et l'autre exaltantes et douloureuses à la fois, et sur la manière dont cette nuit-là, dans l'abbaye, je remémorai l'une et notablement ressentis l'autre à quelques heures de distance, et encore sur la manière dont tout à la fois je les ai revécues à présent, couchant ces lignes par écrit, et comment dans les trois cas je me les suis racontées avec les mots de l'expérience différente d'une âme sainte qui s'annulait dans la vision de la divinité. Se peut-il que j'ai blasphémé, jadis, maintenant? Qu'y avait-il de semblable dans le désir de mort de Michel, dans le ravissement que j'éprouvais à la vue de la flamme qui le consumait, dans le désir de conjonction charnelle que j'éprouvais avec la jeune fille, dans la pudeur mystique par quoi je le traduisais allégoriquement, et dans ce même désir d'anéantissement jubilant qui poussait la sainte à mourir de son propre amour pour vivre davantage et éternellement? Possible que des choses aussi équivoques se puissent dire de façon aussi univoque? Et pourtant, c'est là, semble-t-il, l'enseignement que nous ont laissé les plus grands d'entre les docteurs. Omnis ergo figura tanto evidentius, veritatem demonstrat quanto apertius, per dissimilem similitudinem figuram se esse enon veritatem probat. Mais si l'amour de la flamme et de l'abîme sont figures de l'amour de Dieu, peuvent-ils être figures de l'amour de la mort et de l'amour du péché? Oui. Ainsi que le lion et le serpent sont à la fois figure et de Christ et du démon. C'est que la justesse de l'interprétation ne peut être fixée que par l'autorité des pères. Et dans le cas qui me tourmente, je n'ai point d'auctoritas à laquelle mon esprit obéissant puisse se référer, et je brûle dans le doute. Et voilà qu'intervient encore la figure du feu pour définir le vide de vérité, la plénitude d'erreur qui m'anéantissent. Que se passe-t-il, ô Seigneur, dans mon âme, maintenant que je me laisse prendre au tourbillon des souvenirs, et que je suscite cette conflagration d'époques différentes, comme si j'allais altérer l'ordre des astres et forcer la séquence de leurs mouvements célestes? Je passe certainement les limites de mon intelligence pécheresse et malade. Allons, revenons à la tâche que je me suis humblement proposée. J'étais en train de parler de ce jour-là et de l'égarement total des sens où je m'abîmais. Voilà, j'ai dit ce dont je me souvins en cette occasion, et qu'à ceci se borne ma faible plume de véridique et fidèle chroniqueur. Je restais allongé je ne sais combien de temps, la jeune fille auprès de moi. D'un mouvement léger, seule sa main continuait de toucher mon corps, maintenant moite de sueur. J'éprouvais une exultation intérieure, qui n'était point la paix, mais comme la dernière ardeur étouffée d'un feu qui tardait à s'éteindre sous la cendre lorsque la flamme est morte désormais. Je n'hésiterai pas à appeler bienheureux celui à qui serait permis d'éprouver quelque chose de semblable, murmurai-je comme dans le sommeil, fût-ce rarement dans cette vie, et de fait je ne l'éprouvais que cette fois-là. et à vive allure seulement, et pendant un seul court laps de temps. Comme si on n'existait plus. Ne se sentir en rien soi-même. Être ravalé, presque anéanti. Et si quelque mortel, me disais-je, pouvait un seul instant et vivement goûter ce que j'ai goûté, aussitôt il regarderait d'un mauvais œil ce monde pervers, serait troublé par la malice du vivre quotidien, sentirait le poids de son corps de mort. N'était-ce pas ce qu'on m'avait appris? Cette invitation de mon esprit tout entier à perdre la mémoire dans la béatitude était certes, je le comprends à présent, l'irradiation du soleil éternel, et la joie que celui-ci produit ouvre, éploie, agrandit l'homme. Et la gorge béante que l'homme porte en soi ne se referme plus avec autant de facilité. C'est la blessure ouverte sous le coup d'épée de l'amour. Il n'est rien ici-bas qui ne soit plus doux et plus terrible. Mais tel est le droit du soleil. Il crible de rayons le blessé et toutes ses plaies s'élargissent. L'homme s'ouvre et se dilate, ses veines même sont béantes, ses forces ne sont plus en mesure d'exécuter les ordres qu'elles reçoivent, mais uniquement mues par le désir. L'esprit brûle, abîmé dans l'abîme de ce qu'il touche maintenant, voyant son propre désir et sa propre vérité dépassée par la réalité qu'il a vécue et qu'il vit. Et l'on assiste stupéfait à sa propre défaillance. Ce fut sous le coup de telles sensations d'indicibles jouissances intérieures que je m'assoupis. Un certain temps était passé quand je rouvris les yeux, et la lumière de la nuit, peut-être à cause d'une nuée, s'était beaucoup affaiblie. J'allongeai la main de côté et ne sentis pas le corps de la jeune fille. Je tournai la tête, elle n'était plus là. L'absence de l'objet qui avait déchaîné mon désir et rassasié ma soif me fit ressentir tout à coup et la vanité de ce désir et la perversité de cette soif. Omne animal triste post coitum. Je pris conscience du fait que j'avais péché. Maintenant, à des années de distance, tandis qu'encore je pleure amèrement ma faute, je ne puis oublier que ce soir-là j'avais éprouvé une grande jouissance. Et je ferais tort au Très-Haut, qui a créé toutes les choses en bonté et en beauté, si je n'admettais aussi qu'en cette histoire de deux pêcheurs, il advint quelque chose qui, en soi, naturalitaire, était bon et beau. Mais peut-être est-ce ma vieillesse actuelle qui me fait ressentir coupablement comme beau et bon tout ce qui appartient à ma jeunesse. Alors que je devrais tourner ma pensée vers la mort qui approche. Jeune, jadis, je ne pensais point à la mort, mais à chaudes et sincères larmes, je pleurais sur mon péché. Je me levai tout tremblant. C'est qu'aussi j'avais été un long temps couché sur la pierre glacée de la cuisine et mon corps était transi. Je me revêtis presque fiévreusement. J'aperçus alors dans un coin le paquet que la fille avait abandonné dans sa fuite. Je me penchai pour examiner l'objet. C'était une sorte de sachet fait de toile enroulée qui semblait provenir des cuisines. Je le déroulai, et sur le moment je ne compris pas ce qu'il y avait dedans, tant à cause du manque de lumière que de l'aspect de son contenu. Puis je compris. Parmi des caillots de sang et des lambeaux de chair plus flasques et blanchâtres, étaient devant mes yeux, morts, mais encore palpitants de la vie gélatineuse des viscères morts, sillonnés de nerfs livides, un cœur de grande dimension. Un voile sombre descendit sur mes yeux. Une salive acidulée me remplit la bouche. Je poussai un hurlement et tombai comme un corps mort tombe.